carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Nous nous sommes rendus au musée Bourdel, où un curieux parallèle était exposé d'octobre 2007 à février 2008, un parallèle entre Antoine Bourdel et Henri Moore autour de la mythologie. Henri Moore, inspiré par la mythologie grecque, c'est un aspect très peu connu du sculpteur britannique, aucune littérature n'avait été publiée sur ce thème, et pourtant cette inspiration antique prend corps et devient une évidence au cours de l'exposition. C'est donc d'un œil nouveau que nous avons observé, commenté plusieurs œuvres d'Henri Moore, aux côtés de la directrice du musée Bourdel, Juliette Lafont. Parcours tout en redécouverte parmi les sculptures, les dessins et les lithographies d'Henri Moore. Madame Lafont, vous présentez au musée Bourdel une exposition sur Henri Moore et la mythologie, un aspect relativement méconnu de ce sculpteur. Est-ce que vous pouvez expliquer la démarche qui vous a amené à cette exposition ?
Oui, vous avez tout à fait raison de dire que c'est un aspect méconnu, puisque Moore, jusqu'aux années 40, s'était peu intéressé à l'art classique et à la Grèce. Et depuis que je suis à la tête de ce musée, nous avons depuis 2004, en général, axé notre programmation sur de l'invitation faite à des artistes contemporains. L'idée étant que ces artistes présentent des œuvres en général inédites pour ce musée, et un peu en résonance avec le lieu, les ateliers où Bourdel a vécu, ou avec l'œuvre de ce sculpteur. En ce qui concerne Henri Moore, il me semblait aussi important d'inviter des artistes qui n'étaient pas contemporains, mais qui avaient marqué l'art de la sculpture au XXe siècle, et d'ancrer ce musée Bourdel, si vous voulez, dans une mission de mieux faire connaître la sculpture. Donc de faire de ce musée, en quelque sorte, un musée de la sculpture du XXe siècle. Et de trouver effectivement une sorte de prétexte à cette rencontre, puisque bien évidemment Henri Moore n'a pas connu Bourdel, qu'il n'y a pas a priori de relation entre l'art de Bourdel et celui de Moore, si ce n'est que néanmoins en 1961, quand la veuve de Bourdel, Cléopâtre Sébastos, a décidé de créer un prix de sculpteur destiné aux jeunes sculpteurs, elle a invité immédiatement dans son jury Henri Moore. Et il avait eu une consécration à Paris, et donc c'était assez légitime. Mais ceci est plus anecdotique, néanmoins, donc, le lien qui pourrait exister, c'est à travers la mythologie que cette corrélation existe entre Henri Moore et Bourdel. Bourdel, bien sûr, comme un artiste de sa génération, il est né en 61 et mort en 1929, a été excessivement marqué par l'art grec, et a fortiori parce qu'il a exposé en seconde noce une jeune étudiante qui était venue apprendre la sculpture à Paris et qui était grecque. Donc il a été vraiment nourri de culture classique et grecque, également l'art de la Grèce archaïque. Et disons qu'il nous a semblé intéressant justement de les faire se rencontrer à travers la mythologie.
Alors l'influence grecque d'Henri Moore est beaucoup moins évidente. Vous faites remonter ça à un ouvrage qu'il a dû illustrer, c'est ça ?
Alors le propos effectivement de l'exposition consiste à présenter, c'est le point de départ en fait du projet, il s'agit de deux ouvrages que Henri Moore a illustrés après la guerre, dans les années 40-50. Pendant ces années de guerre, il a lu l'Odyssée. Et on peut considérer que c'est à ce moment-là, véritablement, que son intérêt pour la Grèce devient plus évident et va s'affirmer encore plus en 51 à la suite de son voyage en Grèce, qui sera unique voyage en Grèce. Mais il faut replacer cet intérêt aussi nouveau, en quelque sorte, de Moore dans l'histoire de l'époque. Il ne faut pas oublier que toute l'avant-garde à laquelle Moore n'appartient pas, toute l'avant-garde depuis le début du siècle, se détournait de l'art académique, de l'art grec, et depuis Gauguin, il apparaissait nécessaire d'aller au contraire puiser son inspiration dans ce qu'on considérait comme les arts primitifs. Donc bien évidemment l'art africain,
l'art mexicain pour Moore.
Moore a hanté les salles du British Museum, mais à l'époque, dans les années 20-30, il ne regardait pas vraiment l'art grec et l'art cycladique, mais il n'arrivait pas à l'art grec classique. Vous faites allusion avec tout à fait raison à l'art mexicain. dans les années 30, il s'est inspiré en effet d'une sculpture mexicaine, une figure masculine qui a donné lieu à tout ce qui va engendrer chez lui les figures allongées qui vont jalonner toute sa carrière. Figure d'ailleurs qu'il avait vue au British Museum, mais aussi dont il avait pris connaissance à travers un magazine. Et donc, comme la plupart des artistes de ces époques-là, donc, il ne se dirigeait pas vers l'art classique d'emblée. Il était nécessaire, au contraire, d'ouvrir...
De s'en détacher, carrément.
Complètement. Si vous vouliez être un sculpteur contemporain d'avant-garde, il ne fallait surtout pas continuer à regarder l'art classique, l'art académique, etc. Mais progressivement, au fur et à mesure que les années 30 se sont déroulées, il a commencé à revenir vers cet intérêt pour l'art classique.
Est-ce qu'on peut dire aussi que la même manière que Henry Moore a été frappé par ce voyage en Grèce en 1951, il y avait déjà une sorte de préparation par sa redécouverte en fait de l'art romain quand il est allé en Italie en 1924?
Oui, je crois que ce sont des années où d'autres artistes également faisaient le voyage d'Italie. Et Bourdel, dans ces années-là, s'est rendu en Italie accompagné d'Auguste Perret, qu'il connaissait depuis la collaboration qu'ils avaient eue ensemble pour le Théâtre des Champs-Élysées. Donc, pour Bourdel, il ne s'agissait pas, lui, de s'éloigner de l'art des primitifs, qu'était effectivement l'art africain, notamment, mais quand même un retour à ce qui était la culture occidentale, pour lequel l'apport italien était essentiel. Et là, c'est amusant, parce que c'est vous-même qui y avez pensé, à juste raison, de dire que tous les deux se sont rendus, en effet, dans les années approchantes en Italie. Alors que, bon, c'est pas des gens de la même génération du tout.
Présenter ces ouvrages qui se présentent sous vitrine ici.
Donc, lorsque le thème de l'exposition a été posé par nous-mêmes et surtout par les commissaires invités pour cette exposition, David Mitchison, directeur des expositions et des collections à la Henry Moore Foundation, et Anita Feldman, conservateur. Donc, pourquoi ce thème? Parce que effectivement, il avait été sollicité d'une part pour illustrer un livre qui s'appelait The Rescue, édité à Londres en 1945 et qui, en fait, était un ouvrage qui résultait d'une pièce radiophonique qui avait été, toujours du même auteur, de Sackville West, qui avait été mise en musique donc, par Benjamin Britten, dont vous avez d'ailleurs la partition qui est annotée là dans cette vitrine.
Et qui est inspirée de l'Odyssée.
Inspirée de l'Odyssée, mais juste de 3 jours dans l'Odyssée. Il s'agit des 3 jours au moment du retour d'Ulysse.
Donc Henri Moore a illustré cet ouvrage. Il y a une vraie publication de cet ouvrage.
Il y a une vraie publication que vous avez sous les yeux, là, l'édition originale. Et surtout, le propos était d'essayer de retrouver, de rassembler pour cette exposition les études préparatoires pour cette édition. Alors, il y avait à l'origine un carnet d'études dont les feuillets, malheureusement, ont été assez rapidement dispersés. Et donc, la Fondation Henri Moore s'est employée à essayer de les retrouver. L'exposition ne prétend pas les avoir tous retrouvés. Vous en avez quelques très beaux exemplaires ici. Et vous avez aussi les dessins issus de ces carnets de croquis qui ont servi ensuite à l'illustration de cet ouvrage, The Rescue. Alors je vous disais qu'il s'agissait de l'Odyssée, certes, mais de 3 jours. Donc avec notamment l'arrivée d'Ulysse, le retour, il retrouve Pénélope, les prétendants, le massacre des prétendants. Donc chaque feuille de croquis se présente partagée entre 4 petits croquis. Et en général, vous pouvez reconnaître le croquis qui a été choisi par Henri Moore ou un des croquis qui devait servir ensuite à l'illustration. Et vous le reconnaissez parce qu'il a été mis au carreau. Donc il y a une grille de mise au carreau. Sinon, ces dessins qui sont excessivement colorés, de façon très délicate, avec des rehauts à la fois de crayons de cire, de crayons de couleur, de lavis également d'encre, avec des lignes effectivement qui s'enchevêtrent, qui s'en se croisent. Bon, c'est des dessins de sculpteurs. Et vous avez là également apparaît de façon flagrante l'influence des drapés antiques. Bon, d'abord le sujet, bien sûr, mais ensuite il les a évidemment habillés à l'antique. Et le propos de l'exposition était aussi de montrer combien l'illustration de cet ouvrage et de celui que nous allons voir tout à l'heure, qui est le Prométhée, ont eu une influence aussi sur ces sculptures.
Les fameux drapés.
Voilà, et puis même sur les sujets, enfin des choses. Donc il a en quelque sorte, si vous voulez, traduit en sculpture les dessins qui ont servi à illustrer cet ouvrage The Rescue.
Alors, c'est une époque dans les années 40 où évidemment il était beaucoup plus difficile d'exercer son métier de sculpteur. Donc Henri Moore a fait beaucoup de dessins à l'époque.
En effet, on était dans les années 40-45, pendant les années de guerre. Il ne pouvait pas travailler la sculpture, il n'y avait pas de matériaux pour le faire. Et il a dessiné, je dirais un peu par défaut. En plus, son atelier à Londres avait été endommagé lors d'un bombardement. Et il a été aussi pendant ces années-là, pendant 2 ans, de 40 à 42, peintre officiel. Et il avait pour mission, en quelque sorte, de rendre compte à travers ses dessins de la situation londonienne de l'époque. Et il a choisi de croquer les Londoniens qui passaient les nuits dans le métro pendant le Blitz. Et ce sont des dessins excessivement célèbres maintenant qui ont été découverts il y a une quinzaine d'années et bien montrés, et dont vous avez aussi quelques échos dans cette exposition, notamment dans ce dessin qui montre Ulysse dans la grotte des Naïades. Mais si vous n'avez pas le titre de ce dessin, si vous ne connaissez pas le sujet, immanquablement il évoque précisément ce dont je viens de vous parler, puisque c'est londonien en rang serré sur les quais du métro, endormi ou essayant effectivement de passer une nuit le meilleur possible. Et là, il s'agit d'Ulysse, endormi dans une espèce de grotte, mais qui peut ressembler non seulement au métro, mais aussi qui évoque les puits de mine. Il faut pas oublier que Henri Moore est né à Leeds, qui est un pays minier, et toute son enfance, effectivement, il l'a partagé l'hiver dans cette ville très marquée par cette activité minière. L'été, il gambadait dans les prés, et là, de là date son goût pour la nature, très très forte chez lui. Donc, vous avez là un de ces grands dessins issus de ces petits croquis que nous avons vus tout à l'heure. Là, nous avons le banquet des prétendants avec Pénélope. Et j'attire votre attention sur, encore une fois, le traitement de cette figure et de ce drapé, avec aussi une façon très particulière de le traiter, que vous allez voir dans les sculptures suivantes. On a l'impression que c'est un drapé, mais c'est aussi comme une armure. en plusieurs morceaux, je dirais, qui peut évoquer aussi les moules utilisés dans la fabrication des bronzes, avec des moules qui sont en plusieurs morceaux, des moules à pièces, en quelque sorte les coutures qui les réunissent. Et donc là, un dessin plutôt très violent avec la mort des prétendants qui est effectivement qui ont été assassinés. Alors nous sommes là en 44 pour les études, en 45 pour la publication de l'ouvrage. Donc on est dans les années de guerre. Il est certain que la période transparaît, période d'une grande gravité. Et c'est des dessins qui sont effectivement parfois assez violents, en dépit des couleurs. Très acidulé. Dans la vitrine, sont présentés aussi divers documents de la bibliothèque d'Henri Moore et qui montrent aussi que ces sources d'inspiration, certes, peuvent être l'art antique, comme nous le montrons dans l'exposition, mais ils puisent aussi dans différents documents, photos qu'il avait accumulées ou magazines, livres d'art. Et là, vous avez notamment une photo d'une grotte au Zimbabwe qu'il a reprise vraiment, qui est très proche du dessin que nous venons de regarder, qui montrait Élise dans la grotte des Naïades. Un groupe qui s'appelle Family Group.
Les fameuses familles d'Henri Moore que vous remettez, du coup, que vous resituez dans un cadre mythologique. C'est très intéressant.
C'était celle-ci qui a marqué le retour de Moore à la sculpture après la guerre. Il a eu une commande d'une Vierge à l'enfant, en effet, et cette commande a marqué vraiment son retour à la sculpture après ces années de guerre où il n'avait pas pu sculpter.
Il a beaucoup travaillé ce thème ensuite.
Et ensuite, ça fait partie des thèmes récurrents. En fait, chez Moore...
Il s'agit d'une famille, là, cette fois, avec le père, la mère, les enfants, et les bras des deux parents qui se nouent, en quelque sorte, pour porter l'enfant, juste pour décrire à nos auditeurs à quoi ressemble cette sculpture.
Oui, vous avez tout à fait vu juste, et c'est tout à fait effectivement intéressant, et de voir que l'enfant constitue en effet ce lien au sens propre, puisque les bras des deux parents... prennent appui sur les jambes ou sur les bras de l'enfant en question. Et chez Moore, il y a très peu de thèmes, en fait. Il y a 2-3 thèmes qu'on retrouve d'un bout à l'autre de sa carrière artistique, du moins à partir des années 40. C'est-à-dire une fois que la période surréaliste est passée, je dirais. Donc il y a le thème de la famille ou de la Vierge à l'enfant. Il y a le thème de la femme couchée, on verra un autre exemplaire. Et ce thème de la femme couchée qui peut être à la fois tout à fait un thème figuratif ou sa version plus abstraite. Et c'est vrai que c'est un artiste qui a toujours refusé en quelque sorte d'avoir à choisir entre l'art figuratif et l'art abstrait. Il s'en expliquait en disant qu'il ne comprenait pas, qu'il pouvait tout à fait traiter les deux de façon concomitante ou pas. Et cette exposition le montre aussi, puisqu'il y a un mélange un peu plus figuratif, certes, hein, mais il y a quand même quelques pièces qui montrent que ça l'a amené également à l'art abstrait. Et alors, pourquoi ce Family Group est-il dans cette exposition? Non seulement parce qu'en termes chronologiques, effectivement, c'est la première sculpture. Elle date de la période de The Rescue et du Prométhée, mais aussi parce que là, il utilise en fait les madones où les mères sont habillées de vêtements et de drapés qui, évidemment, font tout à fait référence aux drapés antiques. Et on a même pu dire que le groupe que vous avez sous les yeux ainsi que l'autre sculpture ici et les petites figurines dans les vitrines évoquaient et sont très proches d'un groupe de sculptures grecques de Didyme à Millet et qui se trouve conservé au British Museum. Donc à la fois.
Vous aurez vu alors.
Oui, parce que là vraiment il était quelqu'un qui.
Comptait beaucoup le British Museum, je crois.
Voilà. Alors il y avait cette activité, une autre activité qui était de collecter dans la nature ce qu'il pouvait trouver, les petits os, galets au bord des plages, ou vous voyez toujours ce double intérêt à la fois pour la nature, avec aussi le développement d'un dart quelquefois assez organique, un peu comme Harpe, et puis vraiment les yeux grands ouverts sur tout ce qu'il pouvait voir au British Museum.
Alors notons tout de même que cette sculpture Family Group date d'avant son voyage en Grèce.
En fait, le voyage en Grèce n'a fait que confirmer toute l'exposition et l'intérêt qu'il a porté à la Grèce, qui a commencé, comme je vous le disais, à s'exprimer dans la fin des années 30, au fur et à mesure qu'il se détachait peu à peu de l'art, des différents arts primitifs. C'est vraiment exprimé dans toute sa splendeur dans les 45, années 50, 60, et le voyage en Grèce n'a pas réactivé. C'était dans la continuation de cet intérêt, si vous voulez.
Nous sommes en face d'une tapisserie.
Effectivement, un carton de tapisserie qui illustre un thème mythologique par excellence, qui sont donc les trois parcs. Et donc une tapisserie qui a été réalisée évidemment dans les années 83, mais à partir d'un carton bien plus ancien de 1948. Donc là, vous avez une illustration, stricto sensu, d'un thème tout à fait mythologique. Et vous retrouvez aussi dans le traitement de ces figures du trapé les mêmes caractéristiques que nous verrons dans les dessins ou dans les sculptures.
Est-ce que ce dessin des trois parcs figurait dans les ouvrages qui ont été publiés à partir
non.
de l'ODC?
Non.
C'est encore
ça, c'est quelque chose.
Un dessin indépendant.
C'est un dessin indépendant. C'est effectivement pour illustrer que, outre ces deux ouvrages, il lui arrivait bien évidemment dans d'autres. À d'autres occasions de s'intéresser et de montrer son intérêt en tout cas pour la mythologie.
C'est donc un thème qu'il travaillait. En
fait. Voilà, qu'il travaillait pendant toutes ces années-là. Une série de petits bronzes ou même une terre cuite de famille, Family Group, qui ont pas une vingtaine de centimètres de hauteur à peu près. Alors là, on peut dire aussi que moi j'étais tout à fait contente qu'Henri Moore puisse être présentateur de cette exposition, parce que, si vous voulez, Henri Moore, là, reprend une technique tout à fait traditionnelle qu'est le bronze, de la même façon que le faisait Bourdel. Au départ, dans les années 30, lorsqu'il a commencé sa carrière, Henri Moore, il était quelqu'un qui défendait farouchement la taille directe. Et puis, c'est à la fin des années 30 qu'il a commencé à modeler la terre, à travailler le plâtre et à couler ses œuvres en bronze. Ce qui lui a permis aussi, si vous voulez, de concevoir ses œuvres qui sont de petites dimensions, pouvaient donner lieu à des agrandissements de différentes dimensions et méthodes qui étaient, encore une fois, celles utilisées par Bourdel. Donc, de montrer aussi dans ce lieu consacré à l'œuvre de Bourdel, que la tradition se perpétuait et s'est perpétuée chez Henri Moore. Et on le voit bien, de la même façon que nous, dans ce musée, vous pouvez trouver des œuvres de Bourdel sous forme de maquettes et de toutes petites dimensions. Et vous les retrouvez dans d'autres salles du musée ou dans le jardin à une échelle monumentale. Et c'est la même chose chez Henri Moore.
At the outbreak of war, I had a studio in Kent, not far from Dover. And for the first months of the war, I continued to work there undisturbed. When France fell, and a German invasion of England seemed more than probable, like many others, I thought the only thing to do.
Nous voici dans une grande salle où il y a beaucoup de sculptures de Bourdel et quelques-unes de Moore que vous faites dialoguer entre elles.
C'était un parti un peu risqué que la Fondation Henri Moore a bien voulu accepter de jouer avec nous. Et en effet, il s'agit là d'un hall qui a été en fait construit en 1961 par la veuve de l'artiste sur des plans, des croquis de Bourdel. Donc c'est un hall qui a un aspect un peu des années 30, mais pas du tout.
Hein,
très monumental, mais qui est une salle totalement anachronique dès l'époque où elle a été construite. Et donc, où sont rassemblés les monuments, ou une partie des monuments, enfin les plâtres des monuments de Bourdel. Alors ici, vous avez quelques exemples de la sculpture que Moore destinait à l'art public, au jardin, à l'extérieur. Pour lui, c'était extrêmement important qu'une sculpture, la plupart du temps, sa place d'élection, c'était dehors, c'était pas dans...
Il aimait particulièrement que le ciel soit une sorte de fond d'écran.
Exactement.
Hein,
pour et une puis, sculpture. Vous avez pu remarquer aussi que si on prend cette sculpture devant laquelle nous sommes, qui s'appelle Figure allongée et qui est de 53-54, qui est en effet une figure celle-ci abstraite, mais on reconnaît tout à fait le mouvement d'une femme en effet allongée. Vous voyez combien elle est faite de creux, de vides, et que le vide pour lui est excessivement important. C'est quelque chose qu'il a en quelque sorte mis en place, découvert et affirmé l'importance du creux. Et donc vous parliez du ciel, de ce ciel qui va effectivement apparaître dans les creux ménagés dans la sculpture et qui va être intégré dans l'œuvre de la même façon.
Oui, le rapport, c'est Moore qui l'explique lui-même, le rapport entre la solidité d'une sculpture et puis l'espace du ciel.
Exactement.
Là, on se trouve devant une femme allongée qui a un merveilleux drapé qui fait correspondance aussi avec ce que nous avons dit un petit peu plus tôt sur le drapé antique.
Ah oui, et qu'il illustre là de façon tout à fait claire. Hein. Donc, figure allongée. Moore explique aussi pourquoi il s'intéressait tellement à ce thème. Il expliquait que c'est quelque chose de plus facile, que si vous êtes sculpteur et que vous faites une figure debout, il faut qu'elle prenne appui sur quelque chose, sinon elle se casse la figure, simplement. Si vous pouvez pas, elle peut pas avoir toutes sortes de positions au risque de tomber, si vous voulez, de se casser. Alors qu'une figure allongée a toujours un point d'appui stable, et donc les variantes sont infinies selon lui. Et ici, vous avez de la même époque que celle que nous venons de voir, mais là, une version figurative, donc une femme allongée, avec en effet un drapé à l'antique, c'est-à-dire un drapé aussi mouillé qui colle à sa peau, qui laisse deviner évidemment ses formes, notamment ses seins, ses hanches, et dont le visage est très sommairement esquissé, comme les autres sculptures que vous allez voir par la suite.
D'évoquer l'art sculptural antique qui propose surtout des sculptures qui sont debout, justement. Là, Henri Moore fait surtout des figures allongées. Considérez un peu les sculptures antiques comme un petit peu rigides, non ? Avec ce drapé qui va jusqu'au pied pour cacher les chevilles et permettre que la sculpture soit assez solide. Là, il est en opposition avec la sculpture antique.
Mais il y a aussi des tas de sculptures antiques, et notamment les hommes qui n'ont pas des drapés jusqu'à... Mais cela nécessite un support, donc un tronc d'arbre ou différents artifices pour que, effectivement... Et c'est ça, en effet, vous avez tout à fait raison, qu'il contestait. Donc il trouvait que c'était... ça entravait sa liberté d'expression.
Il avait lu, je crois, un ouvrage de Gaudier qui critiquait l'art antique et je crois que c'était pour lui une sorte de confirmation.
C'est ça, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que, et heureusement qu'il changeait d'avis, mais qu'à un moment de sa carrière dans les années 30, il était farouchement en désaccord, comme vous venez de le dire, avec un certain nombre de procédés utilisés par ce qu'il considérait comme des procédés de l'art antique, et qu'il voulait vraiment s'en démarquer. Il s'agissait avant tout de s'en démarquer. Et donc, peu à peu, après cette... Bon, on pourrait aussi dire que c'est comme une crise d'adolescence, si vous voulez, pour aller un peu vite. Donc, après ce refus, bon, mais finalement, à travers ses lectures, c'est ça qui est intéressant, c'est la lecture d'Homère, je crois, qui l'a amené finalement à ébranler ses convictions premières et à faire qu'il regarde avec un œil neuf des sculptures que jusqu'à présent, qui lui étaient restées indifférentes, dans le meilleur des cas. Alors ici, vous avez quelque chose d'intéressant aussi concernant sa méthode de travail. Il s'agit en fait d'une partie du torse, enfin c'est pas d'une partie, du torse de la sculpture que nous venons de voir, la femme allongée, qu'il a redressée et qu'il montre sans bras, sans tête, sans jambes, comme un morceau d'art antique. Hein. Ne pas oublier aussi que nous, maintenant, ça nous semble tout à fait évident, mais ce qui a frappé beaucoup les esprits depuis, je dirais, notamment au 19e avec les découvertes, c'est de voir que des morceaux amputés de l'art antique étaient aussi beaux que peut-être que s'ils avaient été terminés ou en excellent état. Et que le goût de la sculpture antique en fragments est quelque chose, si vous voulez, qui s'est imposé, en tout cas, au 19e. Au fond de la salle, de façon majestueuse, il présentait une sculpture plus monumentale de Henri Moore pour l'espace public. Il l'a conçue pour l'espace public et qui fait partie de cette série aussi. Nous avons parlé tout à l'heure des familles, des femmes couchées, des femmes allongées, et il y a aussi les formes intérieures et extérieures qui constituent aussi une partie de ce corpus.
Alors ici, nous nous trouvons devant le second ouvrage en rapport avec la mythologie grecque illustré par Moore. Il s'agit de Prométhée de Goethe avec une traduction par André Gide.
Donc on est toujours dans le thème de la mythologie. Prométhée, texte de Goethe. Ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'il était traduit par Gide. Et Gide d'ailleurs est mort avant la publication de cet ouvrage. Lithographie de Henri Moore et éditeur parisien Henri Jonquière et Nicaise. Bon, 1950. Il faut se rappeler qu'en 1949, Henri Moore avait eu une exposition rétrospective très importante au Musée national d'art moderne. Sa notoriété donc était totalement établie. Cette exposition a été l'occasion pour lui de venir en France, qu'il avait rencontré effectivement cet éditeur et qui l'avait sollicité. Or, il n'avait encore jamais participé effectivement à la réalisation d'un livre d'art ou d'un livre d'artiste, ou ce que nous avons vu tout à l'heure était d'un autre ordre. Vous avez raison, là ici il s'agit en effet de lithographie d'un portfolio, d'un livre rare édité donc en 50.
Alors Henri Moore s'est mis tardivement à la lithographie, je crois.
Oui, ça a été cette occasion-là, il n'avait pas encore été sollicité, et donc il y a toute une correspondance qui existe à la Fondation, qui est rapportée d'ailleurs dans le catalogue, où on voit à quel point Henri Moore s'intéresse à ce travail. Nous avons aussi présenté dans l'exposition ses projets de typographie, qui sont pour les lettres, des lettres capitales ouvrant l'ouvrage. Il faut savoir que la plupart de ses dessins, lithographies, ne serait-ce que même aussi la tapisserie qu'on a pu voir, sont des œuvres qui n'avaient pas encore été, en tout cas pas montrées en dehors de la Fondation. Oui. C'est vrai que cet intérêt jusqu'à présent un peu occulté de Moore pour la mythologie n'avait pas été traité ni dans une exposition ni dans un ouvrage en particulier. Alors, vous avez au mur accroché l'ensemble de ces lithographies. Il doit y en avoir 8 ou 9, 2, 4, 6, 8. Voilà. Et à côté, dans la petite galerie, les dessins préparatoires. Dans cette salle aussi, une grande sculpture, de la même époque également. Enfin, un peu plus tardive, non ? Allez. Oui, 61, qui s'appelle une figure Knife Edge, et qui est en fait une figure qui évoque la victoire de Samothrace. Enfin, on ne peut pas ne pas y penser. Et pourtant, elle s'inspire en fait d'un petit os, d'un petit os d'un oiseau qui faisait partie de toute cette petite collection d'Henri Moore, qu'il amassait et collectait, comme je vous le disais, sur les plages et un peu partout, et qu'il gardait dans ses ateliers et dans lequel il puisait comme un vocabulaire de forme. Donc Prométhée, qui, vous le savez, cette histoire magnifique de Prométhée qui a dérobé le feu aux dieux et qui s'en voit puni, accroché, attaché à un rocher, et un aigle lui dévore le foie, son foie se régénérant sans cesse. Mais Moore n'a pas montré Prométhée enchaîné, il le montre beaucoup plus dans sa splendeur au moment où il fait cet acte extraordinairement fâcheux pour lui par la suite, où il dérobe le feu. On voit Prométhée, un héros, le bras levé, le feu devenant une pluie d'or en quelque sorte.
Alors là, on voit sur une lithographie son association entre son thème cher d'assemblage et de rapport de mère à l'enfant, d'inclusion d'une sculpture dans une autre. Et là, il rapprocha avec Pandore et les statues emprisonnées. C'est vraiment intéressant.
Oui, parce que là, c'est littéral, mais là, vous avez tout à fait raison, en effet, c'est que dans ces formes extérieures-intérieures, vous avez raison d'évoquer, bien évidemment, l'embryon, l'utérus, et tout ça, après, va être développé d'une façon totalement abstraite jusqu'à la fin de sa vie. Mais là, c'est encore figuratif. C'est-à-dire que les sculptures qui sont nichées à l'intérieur de ces formes organiques ont encore une tête plus ou moins esquissée, enfin, sont assez lisibles. Mais après, ça disparaît. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi les formes qui sont à l'intérieur de ces formes enveloppantes, qui prennent leur autonomie, qui sortent et qui sont traitées comme des sculptures à part entière, forme d'arbre, là, plutôt.
Vous dites des sculptures à part entière, il s'agit de lithographie en l'occurrence.
Donc parce que j'anticipe sur la suite, oui, vous allez les voir.
C'est aussi peut-être que,
parce que
Moore,
c'est ce qui se passe.
Moore avait aussi en tête une vision sculpturale et tridimensionnelle.
Et on pense aussi qu'à partir de ces dessins ont été traduits vraiment. Non pas, c'est pas des esquisses préparatoires hein, en vue, non, mais ces dessins sont devenus des œuvres en trois dimensions. Vont donner lieu à la création d'œuvres en trois dimensions. Donc toujours le même principe, effectivement, de feuilles de croquis partagées en quatre dessins dans lesquels il en choisit un. Et de cette figure très belle de la mort de Pandore qui tombe dans les bras, qui s'évanouit en quelque sorte. Nous arrivons donc au cœur du musée, dans les quatre salles en enfilade, qui autrefois étaient bien évidemment des ateliers. Chacune des salles ouvrait sur le jardin, le petit jardin intérieur du musée. Vous avez là présenté dans ces quatre salles en enfilade une série de sculptures traitant de ce thème de la mythologie. Dans cette première salle, vous avez deux guerriers, l'un allongé qui est en train d'expirer, sa tête protégée par son bouclier, et un autre derrière vous, assis, effectivement, une figure qui combat encore. Alors, il s'agit en fait d'exemples excessivement rares dans l'œuvre d'Henry Moore, de figures masculines. Jusqu'à présent, nous avons parlé des figures de femmes allongées. Et c'est vrai qu'il y a très peu de figures masculines. Et celles-ci, elles sont aussi très éloignées des figures masculines, combattantes, héroïques, telles qu'on peut les trouver, par exemple, chez Bourdel, qui a traité de ce thème dans le cadre de son monument aux morts de Montauban. Donc là, il met plutôt en scène, d'abord, c'est la mort de ces guerriers, mais plutôt leur faiblesse. Et c'est un art toujours d'une grande humanité. Enfin, c'est absolument pas violent ni agressif. On est quand même dans les années de l'après-guerre où le monde entier a été accablé par la découverte de ce qui s'était passé. Et donc, on est à la recherche aussi de sa nouvelle humanisme. Recherche pour laquelle, si vous voulez, le retour à l'antique paraît important, si vous voulez.
Pour donner sens.
Voilà. Donc, on se raccroche à ces valeurs d'humanisme. Donc toujours, comme nous l'avons pu voir ailleurs dans l'exposition, des petites maquettes et des études pour les modèles présentés.
Il préférait, je crois, utiliser des petites maquettes que des dessins, d'ailleurs.
Oui, il faisait peu de dessins préparatoires. Alors là, quelque chose de tout à fait aussi beaucoup moins connu. Il s'agit d'une série de casques qui s'inspirent directement, par le biais d'ailleurs de la revue Documents, où ils étaient représentés, de casques préhistoriques grecs. Vous les voyez là, il y a deux exemplaires en plomb. C'est d'ailleurs tout à fait étonnant qu'il ait utilisé cette matière.
Et utilisé chez lui, je crois, dans ses casseroles.
Mais donc c'est quand même des pièces qui conservent c'est très énigmatique finalement, très étrange. À l'intérieur de ces casques sont fichées là aussi des sculptures. On retrouve toujours cet intérêt pour les formes externes et internes. Et à l'intérieur de ces casques, la sculpture qui vous est présentée est anthropomorphe. On peut imaginer des yeux, éventuellement, là, qui vous regardent. Ça peut être aussi une sorte de martien. C'est la raison pour laquelle on l'a choisi pour l'affiche, parce que nous trouvions qu'elle était très représentative de l'exposition et que c'était un objet très bizarre qui pouvait... Alors là, c'est un casque plus classique qui pourrait évoquer plutôt des armures médiévales. Quelque chose de très simplifié à chaque fois. C'est des formes à peine esquissées. Il y a pas, c'est un art figuratif, mais où les éléments du visage sont réduits à leur plus simple expression. Là, une des pièces les plus célèbres de l'œuvre de Moore, qui s'appelle Le roi et la reine, et célèbre aussi parce qu'elle a été excessivement reproduite. C'est la première œuvre, je crois, que Moore a placée à l'extérieur, sur des landes écossaises, sur la crête de collines, donc se détachant sur un paysage absolument somptueux. Et en dépit de la dimension de l'échelle du lieu qui était excessivement vaste, le couple tient tout à fait le choc et on l'a rendu célèbre aussi. Alors là, c'est une sculpture qui est tout à fait intéressante parce qu'elle combine, si je puis dire, dans une sorte de syncrétisme très réussi, les différentes influences que l'on a pu noter depuis le début de cette petite visite. À savoir, on retrouve bien sûr, mais très 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 simplifié, un drapé à l'antique dans les robes qui habillent ces deux personnages, mais ils sont dans une attitude qui, elle, est tout à fait reprise des statues égyptiennes. Et ce hiératisme que nous trouvons toujours lorsque nous sommes invités à visiter les salles de l'art égyptien. Et alors, en revanche, les têtes sont un espèce de mélange ou permet de cohabitation de différents éléments plutôt africains. La tête, notamment, du roi évoque les masses. Donc, on a ici, finalement, un exemple très réussi de toutes ces influences auxquelles il a prêté une attention depuis les années 30 jusqu'à la fin de sa vie. Là. Et là, tout ça se mêle et permet, dans le fond, cette œuvre qui est très caractéristique de lui maintenant. La dernière salle de l'exposition, présente une série d'œuvres qui se rattachent aux figures internales, external form, comme on dit, ou figures allongées, et toujours les formes internes-externes qui associent deux pièces, en fait, qui peuvent aussi être indépendantes l'une de l'autre. Vous retrouvez ici la maquette en plâtre coloré de l'œuvre qui se trouve exposé dans le grand hall des plâtres, mais dans une autre dimension, 50 ou 60 cm de long. Donc, tout à fait, elle est. Et à l'intérieur de laquelle est fichée une autre œuvre qui ne figure pas, en revanche, dans l'œuvre plus monumentale du hall des plâtres et qui a pu acquérir son autonomie propre, mais dont on n'a pas d'exemple ici.
Et qui fait écho aux lithographies.
Exactement, que vous avez vues. Et si ce n'est qu'elle est allongée, dans les lithographies, on les voyait debout, comme des arbres dans une forêt, parce qu'il y a aussi un dessin qui s'appelle, qui a ce titre-là.
En voici une, de sculpture verticale d'inclusion.
Issue des dessins, on peut dire. Qu'effectivement, là, vous avez la traduction, presque littérale, d'un dessin présenté dans le couloir.
Nous venons de parcourir ensemble l'exposition « Henri Moore et la mythologie » présentée au musée Bourdelle d'octobre 2007 à février 2008. Nous étions en compagnie de la directrice du musée, Juliette Lafont. En illustration musicale, vous avez pu entendre des œuvres de Gershwin, Keith Jarrett et Debussy. Les références exactes sont sur notre site www.canalacademy.com. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger gratuitement et trouver sur notre site de nombreuses autres émissions sur l'art et sur la sculpture en particulier. Au revoir et à très bientôt.